This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
L'affaire Dany le Prince, épisode 4, Bababam. Après 16 ans derrière les barreaux pour le quadruple meurtre de son frère Christian, sa belle-sœur Brigitte et deux de leurs filles dans la Sarthe, en juillet 2010, Dany le Prince a recouvré la liberté à la suite d'une décision rarissime. La commission de révision des condamnations pénales a estimé qu'il y avait trop d'irrégularités dans l'enquête et elle a même fait le choix de le faire sortir de prison en attendant la réponse de la cour de révision qui décidera si Dany doit retourner ou non derrière les barreaux. Je suis Caroline Nogueras, bienvenue dans Homicide. Avant d'aller plus loin, revenons sur la contre-enquête de la commission de révision. Durant 5 ans, les magistrats de cette commission vont faire un travail minutieux et relever de nombreuses incohérences et éléments nouveaux. Ils sont d'abord assez vite persuadés que le soir du crime, il n'y avait pas un, mais deux tueurs sur les lieux. Des empreintes de deux paires de chaussures inconnues sont présentes dans la maison de Christian. Et puis, il y a autre chose qui leur fait penser à deux tueurs. L'emploi du temps. Le soir du drame, Martine Le Prince dit être sûre que son mari a dîné jusqu'à 21h40. 5 minutes plus tard, en allant nourrir son chien, elle l'a vu frapper son frère Christian. Elle s'est précipitée dans la maison voisine, où sa belle-sœur et ses deux petites filles étaient déjà mortes. Soit 4 morts en moins de 5 minutes, commis par un seul homme. Intriguée, la commission de révision va travailler sur ce problème d'emploi du temps et découvrir que Dany le Prince a peut-être un alibi. Le programme diffusé ce soir-là à la télévision. Dany raconte bien la scène qu'il a regardée au moment même où il est censé tuer les 4 membres de sa famille. Et ça ne colle pas. Il ne peut pas être à la fois devant sa télé et chez son frère. Quant à l'arme du crime, la fameuse feuille de boucher, son analyse est inexploitable puisqu'elle a été nettoyée, sans compter que certaines blessures semblent avoir été faites au couteau. De nouvelles expertises ADN permettent d'établir qu'un couteau retrouvé porte les ADN non seulement des victimes, mais aussi celui d'une autre personne qui pourrait être compatible avec celui de Martine le Prince. Et ce n'est pas fini. Les magistrats font une nouvelle découverte. Dans son cabinet, la juge de l'époque avait un auditeur de justice qui était très lié à Martine le Prince. Martine était sa nounou quand il était petit. Cet homme reconnaît même qu'il n'a pas été partial dans cette affaire devant la commission de révision. Il y a aussi une collusion intime entre Martine et un gendarme mêlé dans l'enquête. Certains parleraient même du gendarme comme l'amant de Martine. Selon la commission de révision, le dossier a été faussé dès le départ. Martine est donc réentendue par les magistrats de la commission de révision. Elle dit ne garder de cette soirée que le souvenir de Dany tapant Christian avec un objet brillant. Mais elle dit aussi, tenez-vous bien,
je me demande si je n'ai pas fait quelque chose, si je n'ai pas tué quelqu'un. Je l'ai dit à mon avocate. Je peux pas imaginer que j'aurais fait quelque chose à ces gens et à leurs enfants. Je m'en veux car j'ai accusé Dany et si ça se trouve, j'ai participé. Il faut que j'arrive à savoir ce que j'ai réellement fait. Je peux pas continuer comme ça. Je suis prête à craquer.
Martine confirme ses propos devant 4 personnes, dont la présidente de la commission de révision. Pour Madame Anzani, la présidente, inutile d'aller plus loin. Elle considère qu'elle a suffisamment d'éléments nouveaux pour déclencher un procès en révision. Le doute est né. Tous ces éléments sont donc envoyés à la cour de révision, seule instance qui peut décider si Dany peut avoir un nouveau procès. 8 mois après la libération de Dany le Prince, l'espoir est immense. La décision de la cour de révision tombe le 6 avril 2011 comme un couperet. Non, il n'y aura pas de nouveau procès. Et elle renvoie Dany le Prince en prison. Le dossier se referme. Dany repart, menottes au poignet, vers la prison de Fresnes. Ses avocats, sidérés, témoignent devant les journalistes.
Pourquoi une décision aussi contraire à la première, alors que la première avait été rendue sous la présidence d'un magistrat qui, pendant 5 ans, a instruit la requête en révision, a mené des investigations? Pourquoi, 9 mois après, dit-on le contraire de ce que ces 5 magistrats de la Cour de cassation ont dit? C'est d'une cruauté invraisemblable.
Pour la première fois, les magistrats de la commission de révision vont sortir de leur devoir de réserve et dénoncer une décision honteuse. Les avocats de Dany ne lâchent rien. Recours en grâce, cour européenne, il frappa toutes les portes, en vain. 1 an plus tard, ses avocats finissent par obtenir sa liberté conditionnelle, avec le port d'un bracelet électronique, l'interdiction d'aller dans la Sarthe, l'interdiction de s'exprimer publiquement sur l'affaire, l'obligation d'un suivi psychologique et l'indemnisation des victimes pendant 7 ans. Depuis décembre 2015, la justice saisie par le père de Dany le Prince, Robert, décortique de nouvelles pistes. Saurons-nous un jour réellement ce qu'il s'est passé ce soir-là dans la Sarthe? Pour revenir sur cette affaire hors norme, je suis avec Maître Claude Laurent. Maître, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Vous avez été l'avocat de Dany le Prince pendant 1 an et l'avocat de son collectif de défense. Vous êtes aujourd'hui, entre autres, l'avocat de Association Action Justice. Maître, vous avez plaidé des centaines d'affaires devant les assises. Celle-ci vous a particulièrement marqué. Pourquoi ?
Alors, cette affaire est à plus d'un titre tout à fait singulière. D'une part, l'horreur des massacres d'une toute une famille, un couple avec ses 2 enfants, déchiquetés à coups de hachoir, ça paralyse la réflexion. Et il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin les dysfonctionnements initiaux. Je crois que toute personne qui se trouve face à un tel carnage met un temps plus ou moins long à s'en remettre. Et à partir de là, il est tout à fait envisageable que les enquêteurs aient pris de mauvaises pistes, ou pas tout à fait les bonnes, parce que, justement, ils ont été tellement épouvantés que leur intelligence s'est rétrécie, si on peut dire.
Maître, on ne va pas refaire, bien évidemment, toute l'histoire, mais il y a quelques éléments sur lesquels j'aimerais revenir avec vous. Si on reprend, par exemple, depuis la garde à vue, Dany le Prince est pressé par les gendarmes. Hein, il le dit à plusieurs reprises. Il n'a pas d'avocat à ce moment-là. Il ne sait pas qu'il peut garder le silence. Et puis, il y a cette pression médiatique très forte. D'après vous, une telle situation pourrait-elle encore se reproduire aujourd'hui ?
Alors, voilà, effectivement, vous avez cité tous les éléments pour créer de mauvaises dispositions pour une enquête. Il y a une perte de plusieurs jours avant de se fixer sur le couple. Déjà, cette perte de 3 jours, de 2 jours, est une perte très importante parce que les poubelles ont été enlevées, la lessive a été faite, donc la scène de crime a été piétinée. Enfin, tout ce qui sert de base, tous les instruments de départ sont inutilisables. Et donc, vous me dites, est-ce que ça pourrait se reproduire aujourd'hui ? Sur l'affolement, ça c'est sûr. Par contre, aujourd'hui, les enquêtes sont mieux encadrées par la science. En 1994, L'ADN, c'était quelque chose qui existait, mais c'était un peu secondaire. On s'en servait, mais parce qu'il fallait le faire. Tandis que maintenant, non, parce que maintenant, avec les scènes de crime gelées, il y a vraiment un travail de fond qui est fait. Le moindre prélèvement ADN peut faire surgir un coupable. Et donc, la réponse est oui sur l'affolement, mais non sur le problème de la scène de crime.
Alors, selon vous, il y a deux éléments absolument troublants dans ce dossier sur lesquels j'aimerais que l'on revienne. Je pense notamment à cet auditeur de justice qui n'est autre qu'un petit garçon à l'époque qui est gardé par Martine. Donc ça, c'est quand même un fait troublant. Ce monsieur se retrouve dans le bureau de la juge d'instruction à l'époque. Et puis, il y a un autre élément troublant, c'est le témoignage de Célia, la fille aînée de Martine et d'Annie. Et d'ailleurs, ce témoignage a eu beaucoup de poids dans le procès. Elle dit même que non seulement elle aurait vu son père tuer Christian, mais elle n'a pas vu sa mère de toute la nuit et elle s'en inquiète.
Alors, pour répondre à la première question sur l'auditeur de justice, je crois que ce genre d'affaire est marqué par le destin. Parce que ce qui est inimaginable, c'est que cet auditeur de justice, donc futur magistrat, qui a déjà le statut de magistrat au moment où il est en stage chez Madame Brunetière, la juge, arrive le jour où l'affaire éclate. Martine Leprince a été sa nounou pendant de nombreuses années. Donc il est normal que c'est tout à fait humain que cet auditeur de justice, qui bien sûr s'explique avec la juge, discute, il est là pour ça, et jette une bonne impression sur Martine Leprince. À partir de là, Madame Brunetière, ayant une bonne impression de Martine Leprince, va probablement ne pas prendre les décisions de mise en détention, de contrôle judiciaire.
Et sur Célia, sur ce témoignage ?
En fait, dans cette affaire, vous avez contre Dany Leprince deux. Il n'y a que deux témoignages, qui plus ses aveux à la dernière heure de garde à vue. Je dirais que le témoignage de sa fille est intéressant dans le sens qu'il démontre qu'il y a plusieurs personnes au moment des crimes. Si elle ment, c'est un autre que Dany Leprince qui est en train de taper sur Christian. Mais où elle ne peut pas mentir, parce qu'on ne peut pas inventer une telle scène, c'est qu'elle explique que pendant qu'elle voit cette scène abominable, elle entend des cris. Et puis, une fois que les cris ont cessé et que la scène qu'elle voit, c'est-à-dire un homme qui tape sur un autre homme avec un objet brillant, cesse, les cris ont cessé également, mais on entend des bruits de pas. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment deux
personnes.
Deux scènes, hein, deux scènes en même temps sur alors, ça paraît logique parce que si on compte le nombre de coups qui ont été portés aux victimes, je crois que c'est 80-70. Bon. Donc ça fait un temps pour chaque victime, plusieurs dizaines de minutes peut-être à chaque fois, pour tuer une personne pendant que les autres essayent de se sauver. Enfin, là, c'est pas possible de faire ça tout seul. Où on voit que l'enquête a vraiment, sans employer un mot méchant, mais non, ça fait de la peine. Moi, je dis que c'est une atteinte à l'intelligence de faire une reconstitution, et on est parti de là. C'est cette reconstitution qui a scellé pour les magistrats, la vérité judiciaire était là, et tout part de là. Il y a à la fois, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez dit vous aussi, les quatre victimes, il faut du temps, malheureusement, pour... Et aussi, Célia qui entend... Donc ça fait deux éléments concordants. Et forcément, il y avait au moins deux personnes.
Au moins deux personnes. Malgré tous les éléments nouveaux avancés par la commission de révision, pourquoi, d'après vous, la Cour a refusé que votre ancien client n'ait pas le droit à un nouveau procès ? On préfère quoi ? Broyer un homme plutôt que de se déjuger, c'est ça ?
Alors, voilà, exactement, vous avez tout à fait trouvé la formule. En somme, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un choix. La justice manque de moyens. Elle manque de moyens, donc elle ne peut pas faire face, elle ne pourrait pas faire face dans l'état actuel à énormément de demandes si elle en satisfaisait une partie. Donc elle a choisi de ne satisfaire rien du tout, puisque ça fait maintenant la dernière affaire qui a été révisée, c'est de 2014, et ça fait donc 7 ans bientôt que pas une seule affaire criminelle n'a été révisée. Pourtant, il y a bien des innocents qui sont en prison, c'est normal.
Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qu'il est devenu, Dany Le Prince ?
Je n'ai pas de nouvelles et je suppose qu'il profite de sa liberté. Après 17 ans derrière les barreaux, il a payé chèrement cette mauvaise enquête. Non, là, franchement, quelle que soit la vérité, il a été très mal jugé.
Merci beaucoup, Maître Lorraine, d'avoir répondu à mes questions. Le 1er mars, Maître Olivier Maurice, le nouvel avocat de Dany Le Prince, a fait une nouvelle requête en révision, expliquant qu'il détenait des témoignages exclusifs. Une requête qui a nécessité 18 mois de travail. Maître Maurice veut démontrer que son client Dany Le Prince n'est pas l'auteur du quadruple meurtre de Thorigné-sur-Douai. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de l'affaire Dany Le Prince. Dans la prochaine saison de Homicide, nous allons remonter encore un peu plus le temps et revenir sur l'affaire des Sœurs Papin, deux bonnes à tout faire qui, dans la France des années 30, assassinent sauvagement leur patronne. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Twitter ou Instagram de Bababam.